Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur le décalogue, les 10 commandements. Nous allons examiner le commandement fondamental qui sous-tend les enseignements de la Bible sur les relations saines entre parents et enfants. Il convient de noter que ce cinquième commandement ne s'adresse pas uniquement aux jeunes enfants. Il ne s'agit donc pas d'aujourd'hui d'un cours sur l'éducation de petits enfants, et c'est quelque chose à retenir. C'est quelque chose qui s'applique à nous tous, ce commandement. Je dirais également que le cinquième commandement ne s'applique pas uniquement aux situations familiales idéales non plus. L'idée de ce cinquième commandement, et on va le découvrir, c'est que ce ne disparaît pas et son importance ne s'estompe pas lorsque nous sommes confrontés à des situations familiales difficiles. C'est un commandement qui, comme les autres, s'applique à nous tous et s'applique à certaines situations difficiles qui peuvent être difficile et qui peut-être nécessite certains sacrifices de notre part. Peut-être vous pensez aussi, ou nous pensons au commandement du quatrième commandement du sabbat, par exemple, et la nécessité de parfois défendre le respect de ce commandement. Ce n'est pas toujours facile et il y a des fois des conséquences quand nous sommes confrontés à la défense de notre respect du quatrième commandement. Dans notre propre vie, vous avez peut-être dû demander congé, demander à votre employeur, peut-être même avant d'être embauché. Vous avez peut-être demandé de ne pas travailler le jour du sabbat. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était un peu difficile? Pour certains, pour la plupart d'entre nous, je crois que c'est quand même, même si Dieu nous donne la force, c'est quand même un sujet difficile à aborder avec un potentiel employeur. Mais voilà, nous comprenons que parfois les employeurs peuvent s'adapter à nos demandes et que dans certains domaines, cela est beaucoup plus facile. Mais dans d'autres domaines et dans d'autres moments, cela n'est pas possible. Par conséquent, les gens peuvent bien sûr être confrontés à la perte de leur emploi, de leur salaire ou de leur rémunération, et ils peuvent se trouver dans une situation financière très difficile pour le respect du sabbat. Donc voilà un exemple de sacrifice que nous sommes prêts à faire pour obéir à Dieu. Et le cinquième commandement n'est pas exception non plus. Donc, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas le seul commandement, le cinquième commandement, qui peut impliquer de faire face à des situations difficiles. Peut-être même de poser des questions difficiles. D'essayer de l'appliquer dans des situations qui ne semblent pas faciles à résoudre. Et c'est ce que nous devons faire quand même. Je suppose que vous pourriez dire que nous devons garder cela à l'esprit pendant que nous abordons le message aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas seulement dans les cas idéaux. Donc, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Lorsque nous creusons un peu dans ce commandement, nous pouvons voir qu'il y a une grande complexité et une grande signification, une grande importance dans le respect du cinquième commandement. Le cinquième commandement codifie, en quelque sorte, le désir de l'Éternel que l'unité fondamentale de la structure de la société humaine soit une unité ou un composant fort et solide, valorisé par tous les membres de cette société. Bien sûr, cette société, à l'époque de l'Exode, quand ils ont reçu ce commandement, était une société un peu unique. C'était une nation qui n'avait pas encore de patrie en ce moment. à cette époque. Ils n'avaient pas de terre qui lui appartenait. Mais c'était un peuple spécialement choisi que Dieu préparait pour hériter, pour recevoir une terre spéciale, la terre promise. Nous allons aujourd'hui commencer à lire dans Exode, chapitre 20, et le verset 12. Bien sûr que ce commandement est répété dans d'autres passages bibliques, mais aujourd'hui, commençons avec Exode, chapitre 20, et le verset 12, où il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Encore une fois, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un point que moi je trouve personnellement très intéressant. Les implications de ce commandement. Si nous lisons, si vous voulez, entre les lignes, c'est une chose que nous pouvons parfois oublier, et c'est que Dieu avait promis de donner aux enfants d'Israël quand même une terre qui leur appartiendrait. Cependant, lorsque le peuple a entendu les 10 commandements pour la première fois, ils n'avaient pas de terre à eux. Ils n'avaient pas de pays. Ils n'étaient pas dans un gouvernement organisé. Ils étaient des étrangers, des pèlerins. Des fois, même, on peut dire, ils étaient des indésirables. Et ils n'avaient pas de citoyenneté à cette époque. Mais ils étaient tous membres d'une famille. Très intéressant. Ils étaient tous membres d'une famille. C'est ce qui unissait les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, la Bible ne désigne explicitement ce groupe de personnes, les 12 tribus d'Israël, que plus tard dans le livre d'Exode. Intéressant. Le Seigneur leur offrait une chance de changer ce statut et de passer d'une unité familiale ou composée de plusieurs unités familiales à un pays qui leur appartenait. Une nation. Même s'ils avaient respecté la volonté de Dieu, on peut dire qu'ils auraient été un royaume avec Dieu comme roi. Mais comme nous le savons, ils avaient décidé plus tard de choisir un roi humain. Alors, c'est pourquoi nous faisons régulièrement référence à cette terre qu'ils considéraient comme la terre promise. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, notre point de vue, nous pouvons regarder en arrière, bien sûr, et voir que Dieu a tenu sa promesse. C'est très important. Il a tenu parole, il a tenu sa promesse à cette nation, à ce peuple qui errait dans le désert. Cependant, imaginez pour les enfants d'Israël à l'époque l'importance de cette promesse alors qu'ils erraient. 40 ans dans le désert. Dans un commandement extraordinaire, Dieu lie la promesse de cette terre aux familles errantes qui composaient les enfants d'Israël. Je trouve très intéressant de voir le lien entre le respect du père et de la mère, la solidité, si vous voulez, de la cellule familiale, de l'unité familiale, et la réussite de ce projet, ce plan que Dieu avait pour leur donner une terre qui leur appartienne. La transmission, bien sûr, de la terre, des terres, bien sûr, de génération en génération, a été et a continué d'être une fonction très importante de la cellule familiale à travers les âges de la civilisation occidentale. Ce processus de transmettre de génération en génération des terres, lorsque les terres étaient possédées ou contrôlées, a toujours été dépendant de la force de cette cellule familiale, de l'unité familiale, et de la culture de l'honneur et du respect. Sans cela, il y avait, et nous le voyons dans l'histoire humaine, l'anarchie qui s'installe. Et vous le savez, Israël elle-même, dans l'histoire d'Israël elle-même, après s'être établie sur le territoire promis, la terre promise, et après le règne magnifique de David et de Salomon, qu'avons-nous observé? Nous avons observé des luttes, des troubles, l'anarchie, l'idolâtrie et l'effondrement de la structure de cette société. Cela a conduit à la conquête de cette nation. Et bien sûr, Dieu avait déjà promis que ceux qui étaient partis d'Israël, s'ils allaient désobéir, ils allaient quand même perdre, n'est-ce pas, l'héritage. Donc, c'était déjà quelque chose, si vous voulez, averti, mais on voit l'accomplissement de ce déplorable comportement d'Israël au fil des années. Donc, nous voyons dans de nombreux endroits de preuves historiques d'un affaiblissement de la famille associée au déclin d'une nation, à l'affaiblissement de la cellule familiale. Et il est intéressant de noter que cela se produit même dans la Bible. En fait, l'apôtre Paul décrit les jours périlleux de la fin des temps, du temps de la fin, comme les jours que nous connaissons aujourd'hui, dans 2 Timothée, chapitre 3. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de notre époque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la fin, de la fin des temps? 2 Timothée, chapitre 3. Et l'une des choses mentionnées ici, nous allons voir. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, comment définir des temps difficiles? Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calominateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, un grand avertissement vis-à-vis de ce type, de cet esprit, si vous voulez, et de toutes ces attitudes, ces comportements qui composent, qui font partie de ces derniers jours, de ces temps difficiles. Mais avez-vous noté? Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. C'est un grand avertissement, n'est-ce pas, que le respect, que l'honneur des parents est important pour produire de temps de bien. Pas des temps difficiles, mais de bons temps, de moments idéaux, de paix que nous cherchons. Et donc, si on manque ce respect et cet honneur, c'est l'une des choses qui conduit vers des temps difficiles. Donc voilà, c'est un avertissement, et il dit même « éloignez-vous de ces personnes ». Ça, c'est à la fin du verset 5. Donc, d'où proviennent ces mots mentionnés ici? D'où viennent-ils? Une grande partie du mal que nous voyons autour de nous aujourd'hui provient de ce type de comportement, de ces attitudes, à la fin des temps. Nous savons qu'il existe une grande ignorance de la parole de Dieu, et même, si vous voulez, de la moralité en général. Mais il existe une grande ignorance de la loi de Dieu, et nous savons que Dieu n'a pas appelé la grande majorité de l'humanité à comprendre à l'heure actuelle. Donc nous le comprenons. Mais nous voyons quand même le produit, le fruit de ce mauvais comportement, de l'ignorance, du non-respect de la loi divine. Ainsi, la voix du péché, la voix de Satan, la voix de l'adversaire, la voix, si vous voulez, de ce monde, domine les attitudes et les comportements de ce monde. Cependant, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple saint, appelé à sortir de ce monde, nous avons le libre choix, bien sûr, le libre arbitre. Nous pouvons nous détourner, n'est-ce pas? Nous pouvons choisir de nous détourner de ces choses et de ne pas laisser ces comportements devenir le modèle de notre cellule familiale. De ne pas laisser cela devenir le modèle de nos relations interpersonnelles. De ne pas permettre que ces choses deviennent le modèle de notre comportement personnel. Cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle il suffit aujourd'hui, en général, les gens disent il suffit d'être soi-même et d'accepter qui l'on est. On n'a pas besoin de changer. C'est ça la voie de ce monde. Et ils disent votre vérité, c'est votre vérité. Ma vérité, c'est ma vérité. Comme ça, on aura la paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi qui tranche. Il n'y a pas une vérité qui est suprême, qui domine sur tout le reste. Ils disent aujourd'hui, soyez vous-même. Ne changez pas. Faites comme tous les autres. Laissez faire. Laissez faire et amusez-vous bien, dans un sens aussi. Nous voyons donc que la désobéissance aux parents est l'une des nombreuses choses énumérées ici par l'apôtre Paul. Et il dit que nous ne devons imiter aucun de ces mauvais comportements. Bien sûr, nous ne devons pas les imiter, mais on peut faire mieux que ça, n'est-ce pas? On sait qu'il ne faut pas les imiter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu nous appelle-t-il simplement à cesser de faire quelque chose de mauvais, de ne pas être mauvais? Non, je pense que ça va plus loin, n'est-ce pas? Vous voyez, il nous appelle de lutter contre ces mauvaises choses, n'est-ce pas? De faire quelque chose de bien pour lutter contre le mal. Donc, tout comme Israël était censé d'être un modèle, un peuple, une nation sainte, nous sommes aussi également censés d'agir en tant que membres de l'Église de Dieu. Nous sommes censés d'agir aujourd'hui comme des enfants de Dieu, d'être un modèle, d'être une lumière qui brille. C'est ça notre appel. Nous sommes une ville sur une colline. Nous sommes censés d'agir, être des acteurs, pas simplement, vous savez, rester de côté. Donc, comment appliquer ces choses à notre famille, à nos relations familiales? Comment appliquer ces choses au cinquième commandement? Donc, au lieu de simplement ignorer cette idée de désobéir, comme le font tant de personnes dans les sociétés actuelles, nous devons nous rappeler de les honorer, nos parents, d'honorer nos parents, d'honorer nos pères et nos mères. Et si possible, si pour nous c'est une vérité, c'est une réalité aujourd'hui, si possible, si c'est possible, notre rôle c'est de chercher à les honorer davantage. Peut-être nous n'avons pas vraiment honoré nos parents à 100% dans le passé. Nous faisons tous des erreurs, mais peut-être nous avons besoin de choisir, de s'engager aujourd'hui à faire mieux. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Des choses que vous auriez aimé changer de ce que vous avez fait? Peut-être que vous pourriez faire mieux. Être guidé par la parole de Dieu pour cibler un comportement meilleur. Donc, par exemple, que puis-je faire pour mieux honorer mon père et ma mère? C'est une belle question. Il est essentiel que nous essayions, que nous fassions de notre mieux, que nous prions, que nous méditions, et que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons nous améliorer. Et voilà, nous avons un champ d'amélioration potentielle dans les relations familiales. Et vous savez, cela peut même signifier que nous devons honorer nos parents mieux qu'ils ont honoré leurs parents. Avez-vous considéré cela? Que l'exemple de nos propres parents n'est pas parfait, que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons vécu, et puis peut-être améliorer les choses. Donc maintenant, nous sommes adultes, certains d'entre nous, pas tout le monde bien sûr, nous sommes adultes pour les adultes ici, mais il y a encore des enfants aussi. Mais pour ceux qui sont adultes, nous avons peut-être encore plus de travail à accomplir, car nous ne disposons pas de cette cellule familiale solide à laquelle nous pouvons nous rattacher. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer si notre famille n'a pas donné une cellule familiale très solide. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons peut-être mieux faire en suivant la parole de Dieu, en appliquant la parole de Dieu. Intéressant, il y a la mère, il y a le père, il y a l'enfant. On peut les mettre comme ça, mais c'est toujours un triangle, ces trois personnes. C'est un triangle, n'est-ce pas? Et savez-vous que le triangle est considéré comme la forme structurelle, peut-être même la plus solide? Ça compose d'autres structures, d'autres géométries, mais le triangle est censé être très, très fort. Je trouve intéressant que cela puisse nous montrer comment une unité familiale, une relation entre un père, une mère et un enfant, peuvent vraiment devenir très forts, qui renforcent même toute la société, et peut-être même renforcent, dans les cas possibles, l'Église de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est l'honneur? Qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie d'honorer les parents? Le mot « honneur » en français vient du mot « hébreu », était traduit du mot hébreu « kavod ». Donc, le mot original dans la Bible, du mot hébreu, c'est le mot « kavod ». Et « kavod » signifie « donner du poids ou de l'importance à quelque chose ». Il signifie traiter quelque chose ou quelqu'un avec révérence et avec le respect qu'il mérite. Intéressant, le respect qu'il mérite. Nous y reviendrons plus tard, mais honorer nos parents ne signifie pas seulement leur obéir en tant qu'adultes, mais aussi les valoriser en tant qu'individus. Les traiter avec dignité, leur témoigner du respect dans nos paroles, nos actions et nos attitudes. C'est donc un mot assez significatif, kavod, honorer. C'est quelque chose qui nécessite une étude approfondie, de la méditation. Donc, parmi toutes les autres choses que les parents sont censés à enseigner à leurs enfants, et bien sûr, il y a beaucoup de choses que les parents sont censés à apprendre aux enfants, ils ont la responsabilité pendant leur enfance de leur apprendre à les honorer. Et c'est pour ça que le titre de ce sermon aujourd'hui, si vous voudriez un titre, le titre, en fait, de ce sermon, c'est « Apprendre à vos enfants à vous honorer ». Apprendre à vos enfants à vous honorer. Donc, l'objectif de fixer ce titre, c'est de mettre l'emphase sur le rôle parental. Souvent, nous mettons peut-être l'emphase sur l'enfant en premier. Mais notre rôle maintenant, en étant des adultes dans l'Église de Dieu, c'est bien sûr de s'adapter, de pouvoir mettre en pratique ce commandement. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ça va nettement mieux si dans le foyer familial, nous avons des parents qui vont apprendre aux enfants à les honorer. C'est ça, comme je vous ai dit, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Tout le monde n'a pas eu cette instruction en tant qu'enfant. Et alors, nous avons quand même un Père éternel qui nous aide, un Père céleste qui nous aide à accomplir ce changement, pour ne pas modeler, pour ne pas imiter les mauvaises choses, mais pour imiter notre exemple parfait. Donc, c'est une responsabilité monumentale d'enseigner le respect. Et ça prend, je dirais, ça ne cesse jamais, en fait. Ça ne cesse jamais en tant qu'enfant. Mais ça va beaucoup mieux dans la structure familiale si nous pouvons enseigner, apprendre à nos enfants ces choses dans leur jeunesse. Bien sûr, vous qui êtes parents, vous savez, la nature humaine ne se conforme pas en soi à l'honneur naturel en tout temps. Ce n'est pas quelque chose qui se développe naturellement en tout temps. Il faut l'enseigner. Il faut enseigner le respect et l'honneur. À un moment donné, cette question se posera à mesure que nos enfants grandiront. Ainsi, les jeunes enfants qui comprennent l'importance d'honorer leur père et leur mère, saviez-vous, ils sont plus disposés à honorer les autres personnes en dehors de la famille, même en position d'autorité, à mesure qu'ils grandissent. L'une des différences à enseigner le respect, l'une des difficultés à enseigner le respect réside dans le fait que nous sommes appelés à enseigner quelque chose que le monde qui nous entoure ne respecte pas. Donc nous sommes vraiment en contraste avec les valeurs de cette société. Malheureusement, dans de nombreux cas, même avant l'essor de YouTube, des influenceurs, du streaming aujourd'hui et tout le reste, lorsque davantage de personnes regardaient en quelque sorte les mêmes choses générales à la télévision, jusqu'à ce point-là, il y avait une dévalorisation de la cellule familiale. Les médias ont dévalorisé l'idée du respect des parents. Ils ont appris aux enfants de faire ce qu'ils voulaient, qu'ils étaient indépendants et libres d'agir comme ils voulaient, sans avoir le respect aux parents. Cependant, considérant notre imagination maintenant, lorsque la société ne renforce pas la valeur du respect des parents aux enfants, comment pouvons-nous le faire chez nous? C'est comme une lutte, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes à part. Nous ne faisons pas comme à la télé. Nous faisons mieux que ça. Nous avons nos règles ici. Mais malheureusement, les influences sont très, très puissantes, n'est-ce pas? Donc nos enfants apprennent de partout, de ce qu'ils voient autour d'eux. Mais notre exemple et notre apprentissage envers nos enfants doit dépasser ce qu'ils apprennent dans la culture, dans la société qui nous entoure. Saviez-vous, ça se produit à l'école, ça se produit en ligne, cela se produit même à travers des lois qui ont été adoptées et qui contournent l'influence des parents dans la vie des jeunes. Donc ces choses, ce manque de respect, ce manque d'honneur aux parents, cette dégradation, cette destruction de la cellule familiale, de l'unité, de ce triangle familial, est quand même attaquée partout. Donc voilà, ces choses se produisent donc. Comment pouvons-nous lutter contre cela? Comment cultiver une attitude respectueuse chez nos enfants qui grandissent dans une culture qui minimise l'importance de la cellule familiale? Pas seulement une bonne indépendance naturelle, bien sûr, mais une indépendance extrême. C'est bien que nos enfants soient un jour indépendants, mais pas rebelles. Je pense que nous pourrions définir cela avant d'aller plus loin, avec quelques lignes directrices générales. Donc, premièrement, nous devons montrer l'exemple. En tant que parents, nous devons montrer l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient en nous que de ce qu'ils entendent dans nos enseignements. Nous pouvons beaucoup parler, beau parler, mais si nos actions ne correspondent pas à ce que nous enseignons, ils vont deviner, ils vont savoir. Si en tant que parents, nous manquons de respect, ou si nous n'avons pas d'estime pour l'autorité ou pour les autres, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos enfants apprennent naturellement à nous honorer. C'est quand même quelque chose qui est assez évident que l'exemple doit suivre. Si nous parlons constamment de manière désobligeante des autres, y compris des personnes en autorité, tels que des enseignants, les ministres même, ou les politiciens, nous ne devrions pas être surpris si nos enfants imitent ou reproduisent ce comportement. Ils apprennent très vite, et ils sont toujours en train d'observer ce qui se passe autour d'eux. Ils écoutent. Parfois, ils écoutent même les petits chuchotements entre nous. Ils écoutent les petites conversations que vous avez peut-être au téléphone, ou ils regardent par-dessus votre épaule lorsque vous envoyez des SMS des fois aussi. Ça arrive, n'est-ce pas? Nos enfants veulent savoir ce que nous pensons, ce que nous sommes réellement. Et si nous leur montrons, même si ce n'est pas directement à eux, si nous leur montrons de mauvais comportements, cela va vraiment nous compliquer la tâche pour le reste de notre travail. Les enfants vont donc s'en rendre compte et ils vont même s'en inspirer et le reproduire dans leurs propres relations, que ce soit de bonnes actions, que ce soit de mauvaises actions, de mauvais comportements. Ils vont s'inspirer et ils vont imiter ces choses. C'est donc comme une épée à double tranchante, n'est-ce pas? Parce qu'ils apprennent tellement vite, mais ils apprennent tout. Donc ça tombe sur nous de faire de notre mieux, avec l'aide bien sûr de Dieu, de prier que Dieu nous aide à devenir un meilleur parent, d'être un bon exemple envers nos enfants, d'être guidé par Dieu, d'être renforcé par Dieu. Deuxièmement, nous devons consciemment enseigner l'honneur dans le cadre de leur éducation spirituelle. Nous ne pouvons pas déléguer cette tâche à l'école, à la télévision, aux vidéos, à quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons nous en occuper. Deutéronome 6, si nous considérons Deutéronome 6 et le verset 7, Deutéronome 6 et le verset 7. C'est des lignes de conduite ici. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de passages que nous pourrions considérer. Deutéronome 6. Ici, nous avons quelque chose qui nous rappelle de l'importance de cet enseignement. Et c'est quelque chose que... Bon, on va commencer au verset 5, en arrivant jusqu'au verset 7. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Rappelons-nous, les enfants observent cela. Les enfants peuvent observer le résultat du verset 5, si vous voulez, dans notre vie. Donc, avant d'aller plus loin... Il faut s'assurer là que nous sommes exemplaires au verset 5. Maintenant, verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et puis ça continue après. Mais je trouve très beau ce passage, et je pense que ce passage souligne que l'enseignement en général au foyer, c'est un processus en continu, c'est constant, en continu, qui exige la diligence, la fréquence et si vous voulez, un environnement approprié, adapté à l'apprentissage. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous marchez dans la rue avec vos enfants, c'est agréable. Car souvent, nous avons l'impression, aujourd'hui, malheureusement, de ne pas avoir autant de moments privilégiés avec nos enfants. On est très occupé maintenant. Mais nous devons faire mieux que cela. Nous devons prioriser la création de moments privilégiés avec nos enfants lorsque l'occasion se présente. Nous devons les saisir, ces moments, et ne pas les remettre à plus tard, car j'ai deux adolescents maintenant. Je peux vous dire que le temps passe vraiment vite. Il passe très vite. Que faisons-nous? J'ai 3 ans pour terminer ce processus d'éducation avec ma grande fille, avant qu'elle devienne un adulte accompli. C'est pas beaucoup de temps. Mais c'est un processus en continu, comme le souligne ce verset, ce passage, et c'est intégré dans la vie quotidienne. Donc, passons beaucoup de temps ensemble avec nos enfants, si c'est possible. Ce n'est pas comme si maman et papa allaient parler de temps en temps de la Bible et de lire quelque chose. Ce n'est pas juste une formalité. C'est quelque chose qui est intégré dans la vie quotidienne. Je crois que cet environnement suscitera également des réactions, des questions, des conversations importantes de la part des enfants. Il faut discuter la Bible, il faut discuter la vie et les questions qui apparaissent de temps en temps. Donc c'est ce que je vois également dans ce verset. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir et de dire « Maintenant, je vais tout expliquer. » Et puis, vous allez écouter. Vous allez dire rien, par exemple. C'est lorsque vous marchez, comme Deutéronome 6 souligne, lorsque vous êtes assis chez vous, lorsque vous vous allongez, vous êtes à l'aise, lorsque vous écrivez, ce sont des moments informels de convivialité. Cela n'enlève rien à l'autorité qui est là. Ça ne va pas dire que, comme nous sommes à l'aise, nous allons laisser faire et que l'autorité doit disparaître. Non, non, non. En fait, c'est dans ces moments décontractés que l'autorité naturelle qui est là, en tant que Dieu a mis en place, devrait apparaître pour que cette situation soit à propos de cette discussion. Et ce n'est pas une implication de ne pas honorer ou respecter les enfants ou les parents. Donc voilà, c'est l'autorité est encore là, mais c'est le moment pour apprendre. On peut dire quelque chose 1000 fois et ça ne sera pas appris, par exemple. Mais si on le dit parfaitement ou dans une situation bien adapté, une fois, ça peut avoir une vraie différence. Ça peut faire une marque, ça peut faire un souvenir qui va rester ancré chez l'enfant. À l'âge d'adolescence, ils ont besoin de négocier de temps en temps, de s'expliquer, d'être entendus. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont des questions à nous poser. Donc, il ne faut pas, simplement ignorer ces questions et ces moments de discussion. Donc, bien sûr, les enfants à l'âge d'adolescence veulent explorer de différentes idées, de découvrir des différentes façons de vivre ou de penser, des philosophies différentes. Ils veulent comprendre le monde autour d'eux davantage. Ils veulent même apporter leur propre personnalité et leur propre point de vue dans des décisions. Et c'est une bonne chose, car cela montre qu'il y a quand même une certaine indépendance qui se développe. Mais, encore une fois, ça ne va pas nier l'autorité du parent. Et donc, il est tellement mieux d'avoir des questions, des conversations et d'échanges pendant ces années passées ensemble à la maison. Troisièmement, en règle générale, nous devons reconnaître les conséquences du manque de respect. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a réprimandé les pharisiens pour leur manque de respect. Nous n'allons pas y reporter aujourd'hui, mais c'est Matthieu 15. Matthieu 15 et le verset 4. Donc, il y avait des scribes et des pharisiens qui posaient des questions, et puis Jésus les a corrigés. Ils ont été corrigés parce qu'ils manquaient d'honneur réel pour leurs parents. Donc, comme il l'a fait à d'autres moments, il a souligné l'hypocrisie chez les pharisiens. Même en citant Ésaïe pour citer l'Ancien Testament, pour citer les Écritures. Donc ça, on n'a pas le temps d'aller plus loin dans Matthieu 15 aujourd'hui, mais c'est un exemple de correction lorsque l'hypocrisie dans ce rôle existe. Mais en règle générale, le manque de respect, Dieu voit ces choses. Dieu voit le manque de respect des parents et il n'aime pas ça. Donc, il faut que le cœur du véritable honneur soit là, soit présent dans notre relation, même si c'est difficile des fois à respecter la conduite ou le comportement d'un parent. Il faut que ce respect ne soit pas oublié ou ignoré. Donc, voilà, l'honneur rendu à nos parents est directement lié à l'honneur rendu à Dieu. Donc, lorsque nous ne respectons pas ce que Dieu a placé en autorité sur nous, lorsqu'il nous manque de l'honneur, nous n'apprenons pas à honorer Dieu. Et cela a bien sûr des conséquences non seulement relationnelles, mais aussi spirituelles. Et c'est pourquoi il les qualifie immédiatement d'hypocrites dans l'exemple de Matthieu 15. Donc, ils avaient prétendu respecter les commandements de Dieu sans le faire. Donc, pourquoi est-ce important? Pourquoi important ces choses? Parce que l'honneur envers nos parents est à la base de tout ce que nous accomplirons dans la vie. Saviez-vous? Lorsque nous considérons nos enfants, leur enseigner l'honneur aura un impact considérable sur leur personnalité et leur vie d'adulte. Nous savons dans un certain sens que nous avons parlé de cette cellule familiale créée par Dieu et de cette relation entre parents et enfants qui constitue le fondement de la société. Ainsi, lorsque l'on enseigne aux enfants à honorer leurs parents, ils apprennent plus que le simple respect. Ils apprennent à vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. Et qu'est-ce que je veux dire? Pas vivre d'après la voie du monde, mais comment avoir de l'honneur et du respect pour les personnes, les individus, les autorités qui les entourent. Ils apprennent à manifester de l'amour, à se soumettre à l'autorité, à ne pas toujours obtenir ce qu'ils souhaitent, de recevoir un non, d'accepter qu'on leur dise non. Vous savez, cela ne fonctionne pas si on ne peut pas gérer les émotions. Certaines personnes ne peuvent pas maîtriser les émotions, ne peuvent pas accepter le non. Et donc, il faut que nos enfants apprennent également à honorer Dieu. Il faut qu'ils apprennent à honorer Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, depuis un certain temps dans la société, il existe, dans un sens, le culte de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas faire des erreurs vis-à-vis des enseignants qui vont les corriger, vis-à-vis des autorités. Les parents interviennent pour empêcher que, si vous voulez, l'ego de l'enfant soit touché par quelqu'un d'autre. Dans un sens, ils disent dans les études que ceci veut dire que dans un sens, l'enfant est une extension de l'ego du parent. Donc, si vous dites non à mon enfant, vous me faites mal mon ego. Et ça produit des problèmes parce que ceux qui sont censés de corriger les enfants, d'éduquer les enfants, de les guider, ne peuvent pas intervenir de façon importante parce que les enfants sont tellement protégés par les parents que la voix ou l'opinion de l'enfant trompe l'opinion de l'enseignant. Ça veut dire que les enfants sur un piédestal et tous les autres sont en dessous. L'enfant dirige dans le culte de l'enfant toute la famille. C'est l'enfant qui prend les décisions à la place des parents. Et donc, si vous voulez, ce triangle d'honneur est déséquilibré et ne fonctionne pas. Il n'est pas à sa place. Et si vous pouvez imaginer un enfant qui a été élevé comme ça à l'âge d'adulte, comment cet enfant devenu adulte va traiter les autres? Si jamais il n'a reçu un non ou un refus ou une correction, si jamais il n'a été touché par ce type de choses, qu'est-ce que ça va produire? Si quelqu'un d'autre, d'une autre famille ou à l'école, leur disait qu'ils faisaient quelque chose de mal, leurs parents s'en prenaient immédiatement à cette personne et disaient immédiatement qu'elle avait tort, que cet enfant avait raison. Imaginez que cette personne devienne adulte. Cela crée vraiment des problèmes dans la société, n'est-ce pas? Nous avons des adultes qui ne peuvent pas recevoir la correction, qui ne se soumettent pas à l'autorité, qui ne peuvent pas gérer les émotions, les sentiments, en particulier les sentiments lorsqu'ils éprouvent ce qu'ils n'obtiennent pas. Donc, lorsque les gens doivent faire des compromis, ils doivent travailler ensemble, cela produit quand même de meilleures relations, en faisant des compromis, en collaborant avec des autres pour travailler ensemble. Si vous réfléchissez, cela conduira à une société explosive d'adultes si on ne travaille pas ensemble, si l'ego est tellement élevé. Et donc, ça nous revient à l'esprit, j'espère, ce que Paul avait dit dans 2 Timothée 3. Donc, c'est pour ça que le cinquième commandement est tellement important. Il ne s'agit pas simplement d'un cours sur l'éducation des enfants. Ce n'est pas juste une façon d'améliorer la dynamique familiale. C'est vraiment l'idée de façonner, de préparer la prochaine génération. Donc, on voudrait tous que cette génération soit composée de personnes intègres, qui comprennent l'importance de l'honneur, qui respectent l'autorité, les différents types d'autorité dans leur vie, et qui vivent selon le plan ou les commandements de Dieu dans leur vie. Car cela signifie qu'elles se soumettent à l'autorité de Dieu dans sa parole. Bien sûr, il existe une forme d'obéissance à Dieu qui est non seulement une bénédiction pour l'individu, mais aussi, bien sûr, pour toute la communauté, pour l'Église et pour la société en général. Si on peut imaginer que ce comportement d'honneur soit multiplié et soit promulgué partout, on peut imaginer une société changée, n'est-ce pas? Donc, ça commence encore une fois là, dans le foyer familial. Saviez-vous que c'était tellement important, le foyer familial? Oui, c'est tellement important pour la société. Nous allons donc considérer des principes bibliques qui aideront les parents à enseigner à leurs enfants comment les honorer, et ce faisant, comment honorer Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de règles ou d'un cours sur l'éducation des enfants, mais je pense que ce sont des idées, des principes guideurs, donc des principes qui peuvent nous guider. Des moyens pratiques de mettre en place ou de renforcer ce commandement. Donc, c'est important, comme je vous ai mentionné, de montrer à nos enfants comment honorer les autres. De montrer aux enfants comment honorer les autres. Lorsque vous honorez vos parents en tant qu'adultes, vous accordez à leur place dans votre vie le sérieux qu'elles méritent. Peu importe qui ils sont, peu importe leur personnalité, peu importe ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. C'est ça l'honneur. C'est leur place dans votre vie qui compte lorsque vous honorez vos parents. Ça, c'est des fois, comme je vous ai dit, c'est difficile à le faire. Mais c'est le principe premier et fondamental. Donc, on peut dire, eh bien, mes parents ne font pas vraiment de choses qui méritent l'honneur. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Ils sont encore vos parents. Ils restent encore vos parents. Et il y a quelque chose dans ce commandement que nous abordons qui traite de cela. Mais il ne s'agit pas seulement de suivre simplement leurs ordres. Il s'agit de reconnaître l'autorité que Dieu a placée dans leur vie en tant que parents. Donc nous devons montrer à nos enfants comment le faire. Dieu leur a donné ce rôle de parent et vous pouvez, si vous êtes un enfant, vous pouvez être un adulte et vous pouvez le mettre en pratique. Donc, en d'autres termes, honorer, comme nous l'avons mentionné, signifie tenir en haute estime, vénérer. Et c'est un rôle que Dieu leur a donné, le rôle parental. Donc, ce n'est pas un rôle qu'ils ont créé, en quelque sorte, et défini eux-mêmes. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a défini ce rôle de parent. Donc, en tant que parent, même si nous ne sommes pas parfaits, nous devons incarner ce principe en veillant à honorer nous aussi, ceux qui ont l'autorité sur nous. Encore une fois, nos enfants observent la façon dont nous nous comportons avec les autres, qu'il s'agisse de notre conjoint, de nos aînés ou même le ministère dans l'Église. Et ils apprennent ce que c'est l'honneur en observant notre comportement. Vite fait, on peut examiner Proverbe chapitre 10. Proverbe 10. Proverbe 10, c'est le verset 19. Excusez-moi. Proverbe 10 et le verset 19. On peut même commencer au verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, dans notre comportement, nos enfants observent soit la multiplication de nos paroles, soit la maîtrise de soi. Si nous multiplions ce type d'insultes ou si nous insultons les autres, si nous ne tenons pas les autres en haute estime, nos enfants vont noter cela. Et donc, il aura un impact sur eux. En revanche, lorsque nous honorons nos parents, lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous honorons ceux qui détiennent l'autorité, nous enseignons à nos enfants ce que c'est l'honneur, ce que ça ressemble. Donc, il ne faut pas compter sur la société de montrer ce que c'est l'honneur. Il est important de se déconnecter de cela. Donc, il y a, comme je vous ai dit, il y a des fois cet exemple de soit un enseignant ou soit une autorité à l'extérieur de la famille qui va intervenir. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est le parent intervient tout de suite pour dire non, non, non. Vous ne parlerez pas à mon enfant comme cela. Même s'ils ont raison. Même si l'enfant est clairement en désobéissance, ils peuvent intervenir pour protéger l'enfant. Donc, ça ne veut pas dire que nous permettons à n'importe qui à corriger et à diriger nos enfants, mais certains rôles sont vraiment importants à respecter. Et il faut que les enfants apprennent à être respectueux envers les autres. Je me souviens, lors de la conférence ministérielle internationale cette année, et bien depuis des années, je suis toujours frappé par le fait que lors des présentations pour ceux qui ont passé 50 ans dans le service, dans l'emploi ou dans le service en tant qu'ancien ou pasteur, ceux qui ont servi plus de 50 ans, ils reçoivent un petit reconnaissance de leur service. Et ils donnent aussi, lors de cette cérémonie, lors de cette présentation, ils donnent aux enfants la possibilité d'écrire un petit mot à propos de ces pasteurs-là. Et moi, je suis toujours touché au cœur quand on entend que certaines paroles, certaines explications de comment étaient ou comment les enfants respectent leurs parents. Donc, intéressant, je me souviens d'un commentaire qui dit « Mes parents ne se sont jamais plaints et ont toujours été respectueux envers les autres. » Je pense que c'est très intéressant que les enfants d'adultes, les enfants en tant qu'adultes, ont reconnu cela. Je pense que 50 ans, c'est beaucoup de service. Et vous parlez d'ici des enfants adultes qui expriment ainsi au sujet de leurs parents, qui ont servi dans un environnement qui a du stress et de la responsabilité. Et ils disent, ils étaient toujours respectueux. C'est un grand honneur de pouvoir recevoir ce commentaire de ces enfants. À la fois, ça reconnaît le fait que les enfants sont au courant et reconnaissent l'activité de leurs parents. Et en même temps, ça veut dire que les parents, en service de Dieu, ont montré un bon exemple. Donc, c'est toujours encourageant d'avoir de bons exemples autour de nous et entre nous. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui vivent longtemps et qui sont indépendants, il y a d'autres complexités qui arrivent des fois. Ces parents sont en bonne santé pendant longtemps et ils sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. Et cela peut être très différent de ceux qui ont des parents fragiles ou ont des problèmes de santé, qui sont devenus dépendants peut-être à un âge relativement précoce. Dans ma vie, moi j'ai eu la chance d'être témoin de l'attention que mes parents et mes grands-parents et même les frères et sœurs de mes parents ont porté à leurs parents et leurs aînés. J'ai été témoin de cela à plusieurs reprises. Je crois vous avoir déjà mentionné que j'ai grandi dans la même ville que mes deux pères de grands-parents, et même que mon arrière-grand-mère, qui était encore en vie du côté de ma famille, était encore vivante. Donc, j'ai vu ma grand-mère prendre soin de mon arrière-grand-mère dans des situations vraiment difficiles. Et à l'âge de jeunesse, cela m'a profondément marqué. J'ai également constaté, malheureusement, lorsque la famille ne pouvait plus s'occuper d'elle, chez elle, j'ai constaté, malheureusement, l'expérience de la maison de retraite. Vous savez, quand j'avais seulement 6 ou 7 ans, j'étais très attentif à la qualité de vie, au niveau de la qualité de vie dans ces maisons de retraite aux États-Unis, les maisons de vieillesse. Je pense avoir décidé à ce moment-là, en étant là-dedans, que si j'avais le choix, je ne placerais jamais ma mère ou mon père dans une maison de vieillesse, donc en raison de l'expérience que j'avais vécue. Pourtant, nous constatons que même si certains n'ont pas les moyens de trouver mieux, il existe une certaine mentalité selon laquelle, de nos jours, l'État va prendre soin de ces personnes âgées. C'est malheureux ça, parce que c'est censé être la famille. Nous constatons qu'aujourd'hui, les gens se détachent parfois de leurs parents à ce stade, au lieu de poursuivre leur relation et de continuer à s'occuper d'eux. Ce n'est pas une évidence, mais c'est une chance que les grands-parents participent à la vie de nos enfants, si c'est possible. Je pense que c'est une chose merveilleuse quand ils peuvent participer à la vie de nos enfants. J'encourage cela dans notre famille, même dans la mesure de possible, avec des appels téléphoniques, des visites, des questions qu'ils posent à leurs grands-parents et des moments d'échange aussi. Sont très importants. Ça apporte beaucoup de force au lieu familial, au foyer familial. Donc c'est donc quelque chose qui demande de l'action. Prendre soin et s'occuper des parents, surtout lorsqu'ils vieillissent. Donc c'est quand même quelque chose que, à jeune âge, peut-être on n'y pense pas, mais on peut préparer ces jours-là avec une bonne relation ensemble. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais pour continuer cette discussion, nous allons continuer cette série sur le décalogue, et j'ai trouvé ce sujet tellement riche que nous allons faire une deuxième partie pour une prochaine fois, et nous allons continuer à étudier ensemble le cinquième commandement dans le futur. Donc, pour le moment, je vous encourage d'étudier davantage les passages que nous avons mentionnés aujourd'hui et de considérer votre propre rôle dans la vie de vos parents et de vos enfants. Parce que c'est quand même riche. Et Dieu attend de nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, il attend de nous une mentalité différente. Il attend de nous, si vous voulez, un niveau plus élevé d'honorer nos parents.